Et c'est parfait pour arriver jusqu'aux marottes de la deuxième partie du LEM du mardi. Les marottes, ce sont les sujets qu'on aime, qu'on veut partager avec vous. C'est aussi beaucoup d'idées de sortie dans le Finistère, surtout quand l'été est imminent. Les marottes du mardi réunissent aujourd'hui Marie Cultive et Marine Bruno. Et je mettrai mon grain de sel si j'ai le temps. Et puisque le ciel est radieux, on va commencer par aller dehors jardiner un peu. Bonjour Marie.
Bonjour Véronique.
Alors c'est super, il va faire très chaud, il va faire très beau. Jusqu'à présent, on n'était pas trop en déficit de pluie, mais ça pourrait se profiler.
Hein ? Tout à fait. Alors, sachant que déjà en Bretagne, on n'a pas des grosses nappes phréatiques, parce que comme on a un sol assez rocheux, ben, ça s'écoule assez rapidement. Voilà. Donc, on n'a pas de grandes réserves, de manière générale.
Donc, si les rivières s'assèchent, ben, on ne peut plus rien boire.
On est très vite embêté, effectivement. Et donc, je me suis dit que là, l'été arrivant, c'est un gros sujet de préoccupation, de plus en plus présent chaque année. Donc on n'en a pas forcément la sensation, notamment dans le Finistère ces deux dernières années, mais ça revient quand même assez régulièrement sur le tapis. Comment fait-on pour stocker, arroser notre jardin ?
Pour gérer l'eau au jardin.
Exactement.
Qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas.
Tout à fait.
Enfin, surtout quand il n'y en a pas.
Bah, en fait, quand il y en a, on est vite embêté par des maladies qu'on arrive... ou pas d'ailleurs à gérer, mais...
Champignons notamment.
Oui, tout à fait.
Comme ça, voilà.
Mais en tout cas, on sait qu'il y a de la vie. Par contre, l'inverse est beaucoup plus embêtant. Donc du coup, je voulais en parler et puis proposer tout un tas de solutions, suggérer en tout cas, et puis après, adaptables à chaque jardin, qu'il soit grand, qu'il soit petit, et qu'il soit ornemental ou qu'il soit potager.
Alors allons-y.
La première chose, ça va être le stockage de l'eau. Je sais que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais en tout cas, le stockage de l'eau, c'est vraiment hyper important. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait installer un récupérateur d'eau ou un bidon ou une cuve enterrée ou extérieure au pignon de la maison, raccordée à la gouttière ou au toit du cabanon. Pour tout ce qui va être les cuves enterrées, généralement, on trouve pareil un raccord de la gouttière par un regard avec du coup des drains qui mènent directement à la cuve enterrée avec une pompe.
Oui, voilà, une cuve enterrée, ça suppose une pompe.
Exactement.
C'est ça.
Ah, oui.
Donc de l'électricité.
Ouais. De l'électricité ou manuelle à l'ancienne, comme on avait chez ma grand-mère à la ferme.
C'est vrai.
Mais ce qui est aussi très, 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 très rigolo, mais c'est vrai que c'est un peu fatigant, mais ça se fait, quoi. Donc, le stockage de l'eau, sachez que si vous achetez des récupérateurs d'eau, renseignez-vous auprès de votre communauté de communes parce que parfois, il y a des aides ou des possibilités de remboursement soit totaux, soit partiels. Ça dépend des collectivités. Donc, chaque communauté de communes adapte sa politique. C'est un peu comme les aides au broyat dont je vous ai déjà parlé quand on veut broyer. D'ailleurs, à ce propos, je rebondis.
Mais oui, rebondissons.
Il n'y a rien de tel pour garder une terre au frais que de pailler son sol. C'est-à-dire de mettre un couvert sur la terre. On ne laisse pas la terre à nu. Dans la nature, la terre, elle n'est jamais à nu. Il n'y a que dans les champs cultivés qu'on laisse la terre à nu. Et encore, on ne la laisse pas en permanence à nu. C'est parce qu'on est en train de semer quelque chose.
Parce que la terre à nu, ça sèche.
Exactement. Donc, on va constater, si on laisse la terre à nu, un assèchement, une croûte qui se forme. Donc, hyper dur à travailler. Et parfois, ça fait un peu... comme dans la savane, vraiment, avec des craquellements de sécheresse. Quoi. Et en fait, ça se passe essentiellement sur les sols argileux. Sur les sols drainants, c'est un peu plus dur à voir, ça met un peu plus longtemps, mais sachez qu'un sol drainant, de toute façon, il va assez rapidement manquer d'eau. Donc, du coup, le paillage vous permet... d'une, de protéger le sol des mauvaises herbes, de conserver une humidité pas constante mais quasi constante au niveau de la terre, et de trois, d'avoir moins de travail à faire quand on travaille son sol.
Et protéger aussi, garder l'humidité, mais protéger la vie grouillante qui peut aider aussi
plantes
à pousser.
Exactement.
Les vers de terre, des choses comme ça.
Tout à fait.
Et ça, avec quoi on peut pailler ? Avec quoi est-il malin de pailler ?
Alors, on peut pailler avec tout un tas de matières. Moi, je vais d'abord vous faire la promotion des paillages gratuits à disposition le plus facilement possible. La première chose, c'est les tondes de gazon. Vous tondez votre gazon, soit vous le faites en mulching et dans ce cas-là, vous utilisez un enfant que vous exploitez qui est puni ou que vous exploitez pour lui offrir de l'argent de poche un mercredi après-midi. Ou bien vous le faites vous-même, un râteau à gazon, vous faites des petits ballots et vous l'étalez. Soit vous l'étalez directement, mais en fait assez rapidement.
Oui, il ne faut pas laisser sécher le gazon.
Vous pouvez le laisser sécher, ce n'est pas le souci, mais c'est juste d'appliquer des énormes quantités de tonte en bloc, ça va durcir et ça va fermenter. Et donc, ça ne va pas sentir très bon. Du coup, ça ne va pas vous donner envie forcément de continuer. La deuxième chose, c'est à l'automne, si vous paillez avec des feuilles mortes. Donc là, les feuilles mortes, on en a tout un tas et donc du coup, vous pouvez aussi les stocker.
Oui, tout à fait. En faisant un panier avec du grillage.
Exactement. Et donc, bien. Du coup, votre stock de feuilles mortes, vous allez pouvoir l'utiliser tout au long de l'année. Après, si vous avez des feuilles coriaces, soit vous vous dites, ça va protéger plus longtemps, soit vous vous dites, je les passe au broyeur à feuilles ou à la tondeuse. Dans ce cas-là, vous avez des petits morceaux. Ça se dégrade plus vite. Donc, ça nourrit le sol aussi plus vite. Vous pouvez avoir aussi des copeaux de bois. Les copeaux de bois, c'est super parce que du coup, ça fait un paillage assez régulier. Vous avez aussi des aides au broyat. Des fois, les communautés de communes dans les déchetteries en mettent à disposition, de plus en plus d'ailleurs.
Ah bon, des copeaux ?
Ouais.
Oui, qu'elles récupèrent dans leur atelier.
Ça arrive. Et sinon, par exemple, je sais que la communauté de communes du Cap Sizun à un broyeur à la déchetterie, donc vous pouvez arriver avec vos déchets de taille. Vous allez, vous broyez. Si vous n'avez pas besoin de tout le broyat ou même d'une seule partie du broyat, vous pouvez laisser sur place et dans ce cas-là, quelqu'un d'autre peut en bénéficier. Donc ça, c'est plutôt chouette, toujours gratuit. Et après, vous pouvez aussi aller chercher de la paille ou du foin. De préférence de la paille parce que le foin peut grainer et du coup se ressemer, c'est un peu casse-pied parfois. Mais du coup, vous pouvez tout à fait utiliser de la paille du foin que vous récupérez en filant un coup de main au centre équestre pas très loin de chez vous. Ça peut se faire. En plus, ça nourrit le sol, c'est parfait. Vous pouvez utiliser tout un tas de... Je vais vous déconseiller la sciure de bois. Il y a plein de gens qui me posent la question. La sciure de bois, souvent, quand vous allez en Syrie, donc maintenant...
Ouais, c'est trop fin, quoi.
Maintenant, quand même, ils séparent les bois traités des bois non traités. Donc, de toute façon, vous pouvez avoir du bois non traité en sciure, pas de problème. Mais par contre, ça va colmater le sol.
Ouais, c'est ça. Ça va créer une espèce de... Ouais, de petit ciment.
Exactement. Ouais. Et donc, du coup, votre sol va manquer d'oxygène. Et donc, voilà.
Donc copeaux plutôt que sûr.
Ah, okay. Complètement. Vous pouvez aussi pailler avec de la paille de miscanthus ou du broyat de bambou, enfin tout un tas de choses.
C'est peut-être moins gratuit là en fait.
C'est beaucoup moins gratuit, effectivement. Mais après, vraiment, moi ça m'est arrivé d'acheter du paillis de lin. C'est des gros ballots, c'est pas extrêmement cher. Le rendu est très très beau.
J'imagine, oui. Et on paille tous les combien ? Enfin, en général, c'est quoi ? Une fois au printemps ?
Ça va dépendre de ce que vous utilisez pour pailler. Ça va dépendre du temps qu'il fait. Ça va dépendre aussi du temps que ça va mettre à se dégrader. Ça dépend de plusieurs paramètres. De la qualité de votre sol aussi. De la vie dans votre sol. Ça va dépendre si vous avez beaucoup d'oiseaux autour de chez vous qui vont mélanger. Ça dépend de plein de paramètres. Si c'est le potager et si c'est l'ornemental. Du coup, je ne peux pas répondre à cette question de manière précise.
On le voit en fait à l'œil. Quoi. C'est
exactement.
S'il faut repailler.
Oui, exactement.
Et donc là, c'est le paillage. Donc ça, c'est un moyen de conserver l'eau dans le sol. Quand est-ce que, malgré tout, s'il faut arroser, quand est-ce qu'il faut arroser son jardin ?
Le meilleur moment pour arroser un jardin, c'est soit le soir. Donc en été, c'est plutôt 18h, 19h. Donc quand le soleil commence à décliner, que généralement la terre est assez chaude pour accueillir l'eau et donc du coup va pas s'évaporer, à même les racines, ou assez tôt le matin. Assez tôt le matin, directement aux racines aussi. Alors moi je suis plus du matin. parce que...
Bah, il fait plus frais, hein, parce que la chaleur, elle retombe le soir, elle ne retombe pas tout de suite. Hein.
Exactement, et il y a un autre truc, c'est qu'en plus, le soir, avec l'humidité de la nuit, quand même, on peut potentiellement augmenter le risque de développement de champignons.
Ah oui, ok, d'accord.
Humidité, chaleur.
Même en période sèche, quoi, d'accord.
Bah ouais. Je me méfie parce que quand même, dans le Finistère, il fait toujours humide le soir. Hein.
Ok.
Donc il y a un moment quand l'humidité retombe, je me méfie. Mais vraiment,
donc le matin plutôt pour la rosace.
C'est pour ma part. Après, vous pouvez aussi installer des zoyas.
Ah voilà, c'est ce que j'allais... J'attendais la venue des zoyas qui devient... Avant qu'il y ait vraiment un truc du sud de la France,
oui.
Et là ça devient tendance un peu partout, c'est
complètement.
Ça ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors, un ou une oya. Donc il y a plusieurs façons de l'écrire. O-Y-A, O-Y-A-S, O-2-L-A, O-2-L-A-S. Enfin, il y a vraiment plusieurs façons de l'écrire. C'est une espèce de petite amphore, mais vraiment assez petite, en terre cuite, qu'on va ensevelir, soit intégralement, soit en partie. Donc dans le jardin, on l'ensevelit intégralement. Et on va juste laisser dépasser un capuchon. Donc on va remplir cette amphore d'eau et on va remettre le capuchon. Et en fait, cette amphore, vu qu'elle est en terre sèche, va être poreuse et donc va pouvoir un peu...
Restituer l'eau, quoi. Enfin,
tout
hein,
à fait,
ça.
Tout à fait. Mmh. Exactement, répandre l'eau de manière assez régulière. Et donc, dans le sol.
Mais il en faut tous les combien, alors ?
Eh bien, ça aussi, ça Véronique, problème. Ça dépend.
Ouais, ouais.
Ça va dépendre de la taille. Mais on considère qu'une amphore de... Enfin, une oya de 2 litres va pouvoir faire 1 mètre carré, 1 mètre carré et demi. Donc, par exemple, un carré potager.
Oui, donc c'est quand même assez gros, 2 litres, finalement.
Oui.
Et ça se trouve facilement, les oyas, chez
nous ? De plus en plus, ouais. Dans toutes les grandes surfaces. Et maintenant, il y a même des super artisans en Finistère qui en fabriquent. Notamment, ah ben bah j'ai oublié son nom,
Erel.
Erel qui en fabrique à Plogonec, et donc du coup c'est on en trouve assez facilement sur les marchés maintenant aussi, et donc c'est aussi adaptable aux plantes d'intérieur. Et donc, du coup, vous pouvez aussi les remplir quand vous partez en vacances.
Mmh. Ah ben oui, voilà. Bon, c'est plus simple que le goutte à goutte. Après, il y a aussi des petits systèmes de goutte à goutte qu'on peut
tout
acheter.
Tout à fait. Alors, les systèmes de goutte à goutte, il y en a plusieurs. Certains qu'on va fixer sur une bouteille.
Mmh.
D'autres qu'on va avoir vraiment un système de goutte à goutte, un peu comme
avec
on a
un fil,
chez les...
un tuyau,
ouais,
quoi.
Un tuyau, mmh, chez les maraîchers notamment, ou les pépiniéristes. Alors, moi, j'aime bien ça, parce que quand même, c'est assez performant. Le souci, c'est que si on n'est pas très attentif, on ne voit qu'un goutte à goutte est bouché,
et ben voilà,
que quand les plantes sont cramées.
Ok, c'est noté.
Donc voilà.
Bon, on va s'arrêter là alors.
Mm-mm.
Merci Marie.
De rien.
D'une Marie à une Marine. Bruno, vous le savez, elle nous initie à l'égalité femmes-hommes. C'est une experte du sujet. Et son thème du jour est lui aussi plein de nature, si on veut. Bonjour Marine.
Bonjour.
Alors, comme ça, tu as regardé la télé.
Oui, c'est vraiment une histoire de dingue parce qu'il faut savoir que j'ai plus la télé depuis que j'ai 13 ans et qu'avant ça, je la regardais déjà pas trop. Donc pour moi, c'est un petit événement et je me suis dit, bah tiens, je vais venir parler de la télé à la radio.
Mais oui, mais qui regarde encore la télé, enfin ?
Bonne question.
Que d'aventure. Qu'est-ce que tu as donc regardé ?
Comme ça m'arrive en effet vraiment très rarement, on l'aura compris, fallait bien un documentaire à la hauteur de ce moment incroyable dans ma vie passionnante, vous l'aurez compris. Donc j'ai regardé une émission de France Télévisions sur l'impact climatique et plus spécifiquement sur cet impact sur notre habitat. On y parlait de 5 risques majeurs, je ne vais pas vous refaire tout le truc, mais notamment les inondations, l'érosion des sols, le retrait du trait de côte du fait de la montée du niveau de la mer et puis les feux. Or chez nous, tout ça se cumule et les prévisions des spécialistes sont vraiment très inquiétantes.
Et tu fais référence notamment à des actualités de ces derniers mois, voire plutôt de ces dernières années même.
Oui, parce que même si c'est vrai que le sujet il est de plus en plus médiatisé, il reste que ces situations deviennent récurrentes et sont très préoccupantes. On parle des éboulements de terrain après des pluies records, dans le Finistère, il faut le faire, à Douarnenez, en passant par la montée du niveau de la mer qui entraîne l'érosion des dunes et conduit par exemple à Tréfiagate à devoir démolir des maisons, en passant par le méga-feu dans les monts d'Arrée ou les inondations dantes. Il n'y a pas d'autre mot. À Redon, à Bru et dans une grande partie de l'Ille-et-Vilaine il n'y a pas longtemps. Bref, les événements ne manquent pas et à chaque fois, la faune, la flore et la vie humaine sont menacées et abîmées. pas Marie qui dira le contraire.
Effectivement. Mais en plus, Marie, elle connaît bien les effondrements de falaises. Là.
Exactement.
Tu as vu la petite référence pas du tout insidieuse. Merci. Ça, c'est de la sororité radiophonique. Hein.
Effectivement.
C'est beau.
Bon, moi-même, bodyboardeuse et baigneuse invétérée, je constate à mon petit niveau chaque semaine cette difficulté. Comme notre auditorat n'aura pas manqué de le comprendre, j'ai la chance d'avoir un métier qui me conduit à parcourir non seulement le Finistère, mais la Bretagne entière toute l'année. Je sais, je suis vraiment très chanceuse. Et si ma planche et ma combi sont toujours dans ma voiture, ben, je me rends compte que je les sors de moins en moins. Partout, la pollution humaine dévaste tout. On constate la réalité de ça très régulièrement dans les endroits qui étaient jusqu'à peu. Il y a des écrins absolus. Je pense notamment à la plage de Pinfoul en Nord Finistère qui fait régulièrement la une, dans le mauvais sens du terme, de la presse quotidienne régionale pour les pics de pollution qui empêchent toute baignade, toute pêche et donc qui m'empêchent d'aller bodyboarder. Tout ça s'explique par le caractère spécifique du territoire breton dans son ensemble. Le dernier rapport du GIEC montre que pour le monde, la température a augmenté de 1,2 degré depuis 1850 et nous, en Bretagne, c'est 1,7 degré. C'est énorme. Les émissions de gaz à effet de serre, elles sont fortement liées à l'activité agricole. Nul besoin de rentrer dans une quelconque polémique territoriale pour savoir à quel point le sujet, sans mauvais jeu de mots, est brûlant dans notre région et spécifiquement chez nous en Finistère.
Et si tu as voulu parler de ce contexte climatique actuel dans le monde et chez nous en Bretagne, c'est parce qu'il y a des études qui montrent que ces questions ont une dimension genrée, car nous sommes dans une chronique sur le genre, enfin,
et
sur l'égalité.
Oui, exactement. Dans les marottes de l'égalité, je raccroche toujours à ces éléments-là. Et c'est une réalité assez terrifiante, le réchauffement climatique. Certains remettent encore en cause aujourd'hui la véracité de ces éléments-là, mais il faut la voir aussi par le prisme en effet sexué, genré, c'est-à-dire en tant que ce qu'il génère comme difficulté spécifique chez les femmes d'un côté, chez les hommes. L'ONU estime que déjà actuellement 4 personnes déplacées sur 5 du fait des éléments de changement climatique sont des femmes et des filles. Donc nos réfugiés climatiques, comme certains les appellent, sont des réfugiés EES dans l'immense majorité. Donc la crise climatique, c'est un problème majeur dans nos sociétés aussi parce que ça constitue une menace pour les droits humains et puis finalement les droits des femmes et des filles. Plusieurs rapports en attestent, notamment celui intitulé « Gros plan sur l'égalité des sexes 2024 » qui explique que d'ici à 2025, 158 millions de femmes et de filles dans le monde risquent de basculer dans la pauvreté d'ici justement à 2050. C'est 16 millions de plus que le nombre total pour les hommes et pour les garçons. Pour cause, c'est pour ça qu'on appelle ça la division sexuée et l'assignation genrée des rôles qui conduisent à ces réalités.
Que tu peux nous expliquer ?
Oui. En fait, les ressources qui vont manquer sont avant tout l'eau potable, la nourriture. Or, partout dans le monde, les tâches domestiques sont bien plus dévolues aux femmes qu'aux hommes, encore actuellement. J'ajouterais même aux filles qu'aux garçons. Elles sont donc vues comme responsables de ce qui est mis dans les assiettes, mais aussi de tout ce qui manque et va manquer. L'ONU a mené une étude qui a permis de constater, par exemple, une augmentation de 28% des féminicides dans le monde chaque fois qu'il y a des vagues de chaleur.
Et si tu traites ce sujet dans les racontages de l'égalité, c'est parce qu'il y a une actualité qu'on aime.
Oui, je reviens sur les balades photographiques de Daoulas en Finistère dont j'ai parlé le mois dernier. Il s'agit d'une exposition dans la ville et à l'abbaye de Daoulas. Le thème cette année, ce sont les îles du monde. Et l'un des 3 artistes exposés, c'est Laurent Veil, qui présente un travail vraiment fort intéressant sur les réfugiés climatiques. Et donc, je le redis, les réfugiés finalement EES dans leur immense majorité. Je vous invite aussi à suivre le travail de Vincent Dubreuil, qui est un géographe qui travaille à l'Université de Rennes. Il est aussi climatologue et co-président du Haut Conseil Breton pour le Climat. Il explique dans toutes ses conférences, et vraiment ça vaut le coup, il n'y a pas de date là à venir, mais je vous invite vraiment à le suivre. Il explique dans ses conférences les spécificités bretonnes des changements climatiques. Il fait vraiment le point sur tout ce qui fait polémique. Et puis, je ne pouvais pas terminer cette chronique sans parler évidemment de l'association Eau et Rivières de Bretagne, à laquelle je tiens beaucoup, et sans saluer plus spécifiquement Dominique Legout et Arnaud Clugerie, qui, avec toute une équipe de salariés et de bénévoles, produisent un travail vraiment immense pour objectiver les problématiques de pollution, faire connaître les réalités au pouvoir public, et puis nous former, nous, publics novices, et notamment depuis l'école primaire, aux bons gestes en matière de gestion de l'eau et de respect de la nature, parce que, comme je le dis souvent avec cette expression un petit peu moche, mais quand même assez féministe, tout se tient par la barbichette dans la nature. Bref, s'informer, c'est comprendre. Comprendre, c'est disposer du pouvoir de changer les choses. Bel été à toutes et tous, dans des eaux, je l'espère, un petit peu moins, je vais utiliser le mot cru, dégueulasse.
Et nous aussi, on fait coucou à Eaux et Rivières de Bretagne, qui publie d'ailleurs une carte des zones baignables ou pas baignables.
Absolument.
Une vraie carte, oui. Des vraies infos.
Avec à chaque fois Pain Full où il ne faut pas aller, ça me rend très triste.
C'est vrai. Merci Marine. Oui, je compatis en tant que bodyboardeuse et baigneuse invétérée moi-même.
Merci.
Allez. Il me reste quelques minutes pour mettre mon grain de sel dans ces marottes et vous donner un mot des nouvelles de nos amis sur Échasse de la compagnie Anime tes rêves, qui crée plein de spectacles de rue dans notre centre Finistère. Anne-Gaëlle Cyr et Fabienne Lanoé vous invitent à participer à la nouvelle version de leur spectacle Océan de Bulles à l'occasion de la fête de la musique organisée par la commune de Anvec. Donc il s'agit d'une création chorégraphique participative qui a été imaginée par la compagnie dans une démarche très humaine, très inclusive. Donc tout le monde peut participer même si on ne sait pas tellement danser. Il y aura d'ailleurs une initiation à la danse, à la chorégraphie en question ce vendredi 20 juin à la salle Anne Perron à Anvec de 18h30 à 19h30 avec les comédiennes. Les mouvements de la chorégraphie, vous pouvez aussi les réviser sur YouTube, sur la chaîne YouTube de la compagnie Anime tes rêves. Cette danse collective a lieu pour la dernière musique du spectacle Océan de Bulles et les représentations devant public auront lieu donc le jeudi 26 juin à 17h15 et à 18h30 place du 18 juin 1940 à Anvec. Et là, il faudra venir habillé de bleu, investir joyeusement l'espace public et partager cette création festive et célébrer avec Anime tes rêves le mouvement, la rencontre, la fête et le vivre ensemble. À Landévennec, à partir de vendredi et jusqu'en automne, l'association Histoire et Culture de Bretagne, en partenariat avec Braise Odyssée, présente une rétrospective, une exposition consacrée à Nono. Nono, c'est le dessinateur emblématique breton, un dessinateur de presse. L'exposition est en accès libre et elle rassemble près de 200 dessins, grand format, un film de 45 minutes aussi, qui retrace 50 ans de carrière de regard engagé sur la Bretagne et ses habitants. Et l'émission, notre émission Le Bistrot des Copains, que vous connaissez bien, elle a lieu ce vendredi à Braise Odyssée, donc à Landévennec, à 16h en direct avec Nono qui sera là, et aussi Philippe Pantier de l'association Histoire et Culture de Bretagne pour marquer le vernissage. Par ailleurs, cet été, il y aura deux rencontres débat avec Nono en accès libre, les samedis 19 juillet et 23 août à 17h, toujours à Braise Odyssée, à Landévennec. Et l'expo Nono, donc, elle commence vendredi, elle va durer jusqu'au dimanche 5 octobre. Lundi, du côté de Châtelain cette fois, c'est le dernier lundi de la santé de la saison. Alors les lundis de la santé, ce sont des conférences pour tout public, des conférences médicales qui ont lieu à Brest, mais on peut les voir en visioconférence à Polissonnance à Châtelain avec le Centre communal d'action sociale de la ville. Et lundi, le sujet sera de saison, il s'agira des maladies liées au voyage. C'est le professeur Yann Quintric, qui est spécialiste en maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier de Brest, qui va présenter les risques liés aux déplacements internationaux, ainsi que les mesures pour prévenir et adopter les bons gestes hein, pour éviter d'être malade pendant et après son voyage. Donc c'est une conférence qui est gratuite, hein, qui est en visioconférence, qui a lieu lundi prochain, le 23 juin à 18h30 à Brest et qui sera donc retransmise en direct à Châtelain. Châtelain qui propose chaque été depuis plusieurs années une exposition photo en plein air, notamment sur les quais du canal de Nantes à Brest, et celle de cette année a pour thème Autre Rive au pluriel. Le vernissage c'est vendredi prochain aussi à 16h sur le parvis de la mairie de Châtelain. Et ensuite, on pourra voir jusqu'au 15 octobre donc des grandes photos, un parcours visuel sur les thèmes de l'identité, des cultures et des enjeux humains, avec plusieurs photographes de renommée internationale qui mettent en lumière des scènes bretonnes, des portraits sociaux, des instants de vie quotidienne. Donc c'est à Châtelain.
C'est magnifique.
Ouais, c'est vrai. Elles sont déjà posées.
Ouais.
Non, mais c'est toujours magnifique ces expos. Moi, j'adore ces expos photos. C'est une très bonne idée. Voilà, c'est vraiment un art accessible à tous en plus. Allez, il me reste un petit peu de temps pour vous rappeler que le festival Voix en Cœur continue. Alors cette fois, c'est à l'abbaye du Relais, c'est à Plouneur-Ménez, c'est donc au plein milieu des Mandarins. Hein. Et il reste quelques rendez-vous à suivre. Jeudi, ce sont les enfants de l'école publique, les Cormorans de Carantec qui chantent. On peut venir les écouter à 14h30. Vendredi, il y a un concert des Voix Nomades. Donc là, c'est à 20h à l'abbatiale du Relais. Et dimanche, un autre concert qui s'appelle Dialogue de Cœur à 17h à l'abbatiale avec les cordes vocales de Tréguin, Grain de Faune de Plougastel-Laoulas et Marcias de Concarneau. Voilà. Merci à toutes et à tous de votre écoute. Les marottes du mardi en deuxième partie de l'Aisne. Mais il y aura une dernière goulée de marottes la semaine prochaine. Et oui, la dernière de la saison. On verra si ça revient la saison prochaine. Et dans l'Aisne de mercredi, c'est Pierre-Yves Boussard qui pilote avec l'atelier radio de la classe Ulysse du Collège Jean Moulin de Châtelain. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.